RCF.
Sœur Joseph, bonjour.
Bonjour Véronique.
Merci de nous accueillir dans cette abbaye de Pradines, où vous êtes moniale bénédictine. Nous sommes dans la Loire, à quelques kilomètres de Roanne. Nous allons avec vous parler du sens de la prière, de la place qu'elle tient dans votre vie, et probablement que votre expérience peut nourrir la vie de tous ceux qui nous écoutent et éclairer aussi le rapport qu'ils ou qu'elles ont avec la prière. Mais nous allons nous interroger sur le sens de la prière, plus particulièrement dans le cadre du carême dans lequel nous sommes entrés. Tout d'abord, j'aimerais vous demander, Sœur Joseph, si c'est la prière qui vous a conduite au monastère.
Il y a 14 ans, quand je suis arrivée à l'abbaye de Pradines, le chant des sœurs a été vraiment une petite lumière sur ma route. Et cette communauté rassemblée m'a donné envie de les rejoindre. Mais bien sûr, aussi un petit moment d'arrêt en me disant « Mais comment je pourrais répondre à cet appel du Seigneur ?» Et à l'époque, nous étions 57 sœurs, c'était très impressionnant. Aujourd'hui, nous sommes 41. Et peu à peu, après avoir franchi le pas de rejoindre la communauté, une joie, un élan me fait vivre chaque jour et que la prière devient peu à peu quelque chose qui est comme donné, que j'ai à accueillir, à la laisser transparaître par toute ma vie, dans mon champ, dans ce que nous vivons, de la vie ensemble, du travail, dans la rencontre avec les autres, parce que c'est très souvent que les autres, en participant aux offices, ils sont touchés par la paix, par voilà, des sœurs qui ont tout donné, qui ont choisi le Christ et qui sont là tout simplement avec leur pauvreté, avec ce qu'elles sont, et elles donnent ce qu'elles sont, chacune sa voix.
Fidèlement, 7 fois par jour, je crois. Hein,
voilà, 7 fois par jour.
Vous vous retrouvez toutes à l'office, donc dans la chapelle de cette abbaye, et vous priez ensemble. Alors, on va, tout au long de ces entretiens, Sœur Joseph, évoquer les différentes formes de prière et ce que ça signifie pour vous. Mais puisque nous sommes particulièrement plongés dans ce temps de carême qui va nous conduire à la fête de Pâques, j'aimerais aussi que vous nous précisiez ce que pour vous représente ce temps de carême. Comment vous le vivez? Quel sens il a?
Donc les 40 jours du carême rappellent bien sûr le long chemin du peuple hébreu à travers le désert. Et puis les 40 jours du Christ au désert avant de commencer sa vie publique. Alors l'Église nous propose un temps fort pour grandir en humanité. Pour nous, c'est un vrai chemin de foi qui s'ouvre devant nous, le mercredi des cendres, et que le Christ lui-même nous accompagne sur ce chemin, il nous soutient de sa force. Pour moi, je crois que c'est un temps pour nous tourner vraiment vers la lumière, qui est Dieu, bien sûr, pour nous tourner vers la lumière afin de vivre plus en vérité notre relation à Dieu, à nous-mêmes, aux autres et avec la création.
On l'associe souvent à un temps d'effort, de pénitence, mais ça n'est pas que ça.
Non, ce n'est pas que ça. Parce que notre vie quotidienne fait qu'il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de choses qui font que nous ne sommes pas tout à fait connectés à Dieu. Et je ne pense pas que si l'Église nous propose ce temps fort, c'est parce que elle veut nous tourner tout le temps vers Dieu. C'est le chemin du chrétien, c'est de se tourner un peu.
De s'orienter vers
voilà,
Dieu.
Voilà, c'est orienter vers Dieu. Et que il y a toute une démarche. Je pense que si on le voit de côté de la pénitence et de quelque chose qui nous accable, qui est un effort presque surnaturel, nous serons tout de suite écrasés. Alors que si nous le percevons comme une démarche de se tourner vers la lumière, vers celui qui est amour, tout peut changer dans nos vies. nous ne sommes pas fermés sur nos petites, bien sûr, nos misères, nos faiblesses, peut-être le péché, tout ce qui peut nous encombrer et alourdir notre cœur. Mais en nous nous tournant vers Dieu qui est lumière, peu à peu, nous pouvons faire cette lumière sur nous-mêmes, sans nous accabler par nos propres misères, nous sentir complètement écrasés par nous-mêmes finalement.
Sœur Joseph, vous nous avez un peu éclairé sur ce que représente le carême pour vous. Revenons à la prière, qui est vraiment l'axe central de votre vie bénédictine. Expliquez-nous quelles sont les différentes formes de prière que vous pratiquez. Comme religieuse, il y a plein de manières de prier.
Alors au monastère, une journée de prière commence le soir, à la veille, avec l'office des vigiles. Nous nous retrouvons tout ensemble à la chapelle. Après le repos de la nuit, donc l'office de l'aude va au lever du jour, nous rappelle la résurrection du Christ. Donc la journée va se dérouler au fil des offices, si vous voulez. Les offices vont rythmer cette journée, puis l'Eucharistie le matin, qui va être un peu le sommet de la journée, qui nous rassemble tout à l'église avec les fidèles pour communier et recevoir la communion au corps et au sang du Christ. Puis la prière personnelle qui est là le matin, l'oraison, et puis la lectio divina le soir, lecture méditative de la Bible. Entre tous ces temps de prière qui sont finalement assez ordonnés dans la journée, il y a cette prière du cœur qui continue, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a un verset d'un psaume, un passage biblique, d'une lecture qui peut tout à fait nous rester toute la journée.
Ça vous habite et ça vous accompagne?
Voilà, elle nous accompagne toute la journée, comme un petit refrain dans nos cœurs. Ben finalement, c'est ça, prier sans cesse, parce que quand saint Paul dit prier sans cesse, cela ne veut pas dire 24 heures sur 24, rester à la chapelle ou dans sa chambre, 7 sur 7, pour faire que prière, prière, prière. Ah non, prier sans cesse, c'est avoir ce cœur à cœur à Dieu par justement une parole ou quelque chose que nous avons reçu, que nous allons garder toute la journée pour la goûter jusqu'au bout.
Alors, vous avez employé un mot peut-être inconnu de certains de nos auditeurs. Vous avez parlé de lectio divina. Qu'est-ce que ça veut dire?
La lectio divina, qui nous est très chère, chez nous, après l'office des Vêpres, il s'agit d'ouvrir la Bible et se laisser travailler par la parole de Dieu. Vous savez, ce passage...
Donc là, vous êtes seule.
Voilà, normalement, nous sommes dans notre cellule. Dans d'autres communautés, cela se passe dans un endroit qu'on peut appeler scriptorium, où chacune a un petit bureau et elle travaille de son côté. Normalement, la lectio, nous sommes seuls avec la parole de Dieu. Nous pouvons lire la Bible en continu, ou nous pouvons travailler des livres individuels selon les temps liturgiques. Nous pouvons tout à fait copier un texte biblique, colorier comme des enfants, les paroles qui se répètent, les verbes, les personnages. Et c'est une manière de copier la parole de Dieu, elle s'inscrit en nous. Et elle révèle toute sa saveur. Peu à peu, nous découvrons des trésors. Parfois, il n'y a qu'un mot qui nous reste et il va travailler en nous. On va découvrir peu à peu une saveur que nous ne connaissions pas. Et Dieu se révèle comme ça. Et les récits bibliques, nous allons découvrir qu'ils nous disent quelque chose de nous-mêmes, de notre histoire. Ils nous aident à faire parfois des passages difficiles, des passages ou des moments plus heureux. Ils nous révèlent à nous-mêmes, si vous voulez.
Pour finir ce premier entretien, Sœur Joseph, comment pour vous résonne la phrase du Deutéronome que nous avons choisie cette année comme leitmotiv du carême sur RCF. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. » En quoi est-ce que la prière, la pratique de la prière est une façon de choisir la vie, surtout dans le temps de carême, c'est-à-dire par exemple décider qu'on va y accorder un peu plus de temps. En quoi est-ce que c'est faire le choix de la vie ?
Vous avez choisi une très belle parole pour RCF cette année, pour le temps de carême. C'est du livre du Deutéronome au chapitre 30 que nous avons entendu le jeudi après les cendres. C'est une parole très forte et un appel, je pense, que le Seigneur nous adresse chaque jour. Choisis la vie. Alors, en quoi la prière est chemin de vie ? C'est parce qu'elle nous connecte à la vie qui est Dieu, à l'essentiel. Elle nous ramène de tous nos chemins, petits chemins d'égarement. Nous sommes tout le temps cette brebis perdue qui est en train de s'égarer et que nous avons besoin que le Seigneur nous appelle fort, mais choisis la vie. Elle n'est pas là où tu vas aujourd'hui, où tu es allé hier. Choisis aujourd'hui la vie. Et ce qui est magnifique avec Dieu, aujourd'hui, tout est possible. Rien n'est perdu pour Dieu. Il y a toujours un aujourd'hui qu'il nous adresse à nouveau. Il ne se fatigue pas. Dieu, il nous dira toujours, choisis la vie. Il ne se lasse pas. Il ne se fatigue pas des hommes qui... C'est notre pauvreté qui fait qu'on est un peu chancelant et on se détourne tout le temps. Et on choisit parfois un peu des facilités qui vont nous détourner un peu, peu à peu des chemins de vie. Alors la prière, elle nous permet vraiment d'être connectés, branchés, des mots qui aujourd'hui nous parlent, de nous brancher à la vie qui est Dieu et nous ne pouvons pas nous égarer.
Sœur Joseph, je rappelle que vous êtes moniale bénédictine à l'abbaye de Pradines dans la Loire. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres de Roanne. Vous nous accueillez dans cette abbaye pour évoquer cette semaine la place et l'importance de la prière dans votre vie et en particulier dans ce temps de carême. Vous nous avez expliqué que la prière tient une place centrale dans votre vie quotidienne. J'aimerais savoir maintenant ce que c'est pour vous que la prière.
Le temps de prière sont avant tout pour moi une rencontre avec le Seigneur. La prière nous permet de nous tenir en présence de Dieu, à la fois le Très-Haut, le Tout-Autre, mais aussi le Tout-Proche en Jésus-Christ. Alors, célébrer l'office divin et le service du moine et de la moniale, comme tout le monde le sait, pour moi, la prière, c'est avant tout une histoire d'amour. Nous sommes devant Dieu, un Dieu qui nous aime, qui tient à nous, qui veut notre bonheur. Dans la règle de Saint Benoît, le premier degré d'humilité est celui de vivre sous le regard de Dieu, et cela vraiment en tout temps. Psalmodier, comme nous le faisons 7 fois par jour.
Donc psalmodier, c'est-à-dire dire les psaumes.
Prier avec les psaumes. Ouais. C'est vivre avec Dieu toujours présent, qui connaît nos besoins, nos joies, nos peines. Dans le psaume 138, que vous connaissez certainement, les mots sont très forts. « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois et je me lève. De très loin, tu pénètres toutes mes pensées. »
Alors, est-ce que ça veut dire que la prière est un devoir ? Parce que Dieu nous surveille et qu'il fait un peu les comptes, il tient les comptes du temps qu'on lui accorde.
Certainement pas. Si nous le percevons comme un devoir, et ça peut être le risque pour nous, moines ou moniales, c'est que nous n'avons pas encore rencontré le Dieu amour et que nous n'avons pas encore tout à fait saisi l'enjeu de la prière qui est vraiment une rencontre. Je le dirais plutôt un rendez-vous d'amour, un rendez-vous où Dieu nous attend, où Dieu nous espère, il nous désire, il ne veut que nous combler de la paix et de la joie qui sont finalement les dons de l'Esprit-Saint. Et je crois que la prière est ce lieu de rencontre privilégiée avec le Seigneur, qu'elle soit pendant la psalmodie, avec des frères et sœurs à la chapelle, dans la prière personnelle, dans la lectio divina, pendant la lecture méditative de la Bible, toujours une rencontre avec le Seigneur.
Ça veut dire donc, ça peut paraître une évidence pour vous, mais que Dieu... Pour vous, c'est quelqu'un, une présence réelle dans votre vie, ça n'est pas une philosophie, ça n'est pas un idéal, des idées, des principes, des valeurs, ça n'est pas ça.
Non, c'est une personne. Et le Christ est venu nous dire que Dieu est Père, nous ouvrir à cette relation. Il nous a vraiment ouvert ce chemin, la prière. Et nous parlerons encore qu'est-ce que c'est la prière du Christ. Et je crois que pour nous, quand le Seigneur nous parle du Père et qu'il veut sans cesse nous tourner le regard vers le Père, c'est finalement une manière de nous préparer à la prière, de nous dire que c'est une rencontre, que c'est une relation.
Vous avez employé, Sœur Joseph, une formule très forte. Vous avez dit c'est un rendez-vous d'amour.
Oui, parce que Dieu est amour. Dieu est amour pour l'humanité entière. Il aime toute création. Il aime l'herbe des champs. Il aime l'oiseau. Il aime toute créature. Donc si je parle d'un rendez-vous d'amour, c'est parce que Dieu est amour et Dieu est lumière. Le Christ est venu nous dire ça à travers toute sa vie.
Ça veut dire que c'est un rendez-vous d'amour réciproque. Vous expérimentez, vous ressentez son amour pour vous, mais vous pouvez dire que vous l'aimez aussi?
Bien sûr, il y a un psaume où nous chantons toutes d'un même cœur « Je t'aime Seigneur, ma force ». C'est fort de dire ça
dans la liturgie. C'est très fort.
Et je crois que c'est l'appel pour tout croyant.
Oui, mais tout le monde ne fait pas cette expérience-là. Quand on vous voit, quand vous en parlez, vous avez le visage qui s'illumine et les yeux qui pétillent. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose pour vous de vital, quoi, de très fort dans ce que vous êtes en train de dire.
Oui, parce que je pense que pour tout être humain, nous avons toute notre vie pour découvrir combien nous sommes aimés. Nous sommes aimés d'un amour fou et le Christ mort sur la croix. Pour le salut des hommes, c'était pour nous dire que Dieu est amour et il est allé jusqu'au bout de l'amour par obéissance au Père. Et je crois que nous avons toute notre vie, et parfois, pour certains, il faut qu'ils arrivent vraiment au dernier moment pour se préparer à la rencontre, pour découvrir que Dieu les aime vraiment. Et je crois que cette expérience, elle n'est pas réservée à quelques-uns.
Sœur Joseph, vous nous avez parlé d'un rendez-vous d'amour, d'une rencontre. Le mot devoir n'est pas apparemment dans votre registre. Est-ce que c'est un dialogue également, la prière ?
Oui, c'est un dialogue et c'est là l'importance de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, si vous voulez, donc nous accueillons, et même dans la prière des psaumes, nous accueillons les paroles mêmes pour la prière. Et par les psaumes, nous répondons à Dieu. Donc en fait, c'est un dialogue qui s'instaure entre nous, une parole que nous recevons, qui va habiter notre cœur, et à la fois qui nous donne les paroles pour nous adresser à Dieu. Et nous entrons dans un dialogue qui se poursuit et qui, justement, est la source de la vie. Et rester dans ce dialogue, nous avons parlé de la prière, des prières sans cesse, nous pouvons y revenir. Finalement, dans la journée, il s'agit de rester dans ce dialogue permanent, dans ce cœur à cœur à Dieu, même en dehors de l'Église, ou même en dehors de quand nous prions seuls dans notre chambre, en secret. Cette prière se poursuit dans la journée, dans notre travail.
Oui, dans votre travail aussi. Vous pouvez tout à fait être dans un atelier, ou à la cuisine, ou au jardin.
Voilà.
Et être habité par ces psaumes que vous connaissez par cœur, ces passages bibliques que vous connaissez par cœur peut-être aussi.
Tout à fait. En faisant le ménage, en faisant du jardinage, cette parole, je dirais presque, elle prend chair de plus en plus en nous. Elle est dans notre cœur, mais dans notre corps, elle prend de plus en plus de place. Elle nous habite de plus en plus. Et la place du silence est très importante. Nous travaillons en silence et dans les ateliers, si nous avons besoin de parler entre nous, bien sûr, comme tout travail, il y a besoin de collaboration,
de communication.
Mais nous chérissons le silence parce que c'est le lieu où ce travail continue à nous travailler. Cette parole, elle continue à nous travailler, à nous habiter, à prendre chair en nous.
Et pourtant, est-ce qu'il vous arrive de sentir une certaine aridité et que l'office, cette fois par jour, vous pèse ou que ce soit moins évident par période ?
Oui, c'est une très très bonne question parce que nous sommes des êtres humains avec des hauts et des bas, des passages difficiles, des jours plus heureux et des jours où nous sommes moins en forme du point de vue de la santé ou fatigue. Ou... Nous passons par toutes les étapes de la vie aussi comme tout être humain et bien sûr, parfois la prière est plus difficile. Il peut y avoir aussi des moments d'aridité et où le silence est plus pesant aussi. Mais je crois aussi que c'est bien ainsi aussi. Que ce n'est pas toujours la joie exultante et que cela nous fait prier les psaumes d'une manière plus intense, je crois. Parce que vous savez très bien que dans un psaume, il peut y avoir... au début, un cri de détresse, de désespoir, et qu'à la fin, il y a une jubilation. Donc, quand nous prions les psaumes, et qu'il y a tous ces sentiments humains que nous pouvons quelquefois exprimer à travers les psaumes, et découvrir ce qui nous habite finalement, qu'il peut y avoir la tristesse aussi, la colère même, le désespoir. Nous ne sommes pas à l'abri de tous ces sentiments humains, et justement l'aridité, la pauvreté extrême, mais que, si vous voulez, nous sommes là. Et peut-être le secret de la prière est là aussi, d'être tout simplement là et accepter que rien ne se passe et que c'est un labeur. Et que la prière, c'est un labeur, finalement. Et prier 7 fois par jour et des psaumes qui, parfois, sont loin de notre réalité du moment. Mais c'est ça aussi la prière, c'est être là. Et nos sœurs anciennes nous le disent souvent que quand il n'y a plus de mots, plus d'images pour la prière, et souvent la maladie et la pauvreté, le dépouillement, être là, c'est aussi une prière.
C'est offrir du temps, offrir ce qu'on est, tel qu'on est.
Offrir ce qu'on est, à ce moment-là, sa pauvreté, tel qu'on est devant Dieu. C'est magnifique, parce que finalement, on ne joue pas un jeu. On est vrai devant Dieu. Et je crois que pour Dieu, ce qui est important, et pour nos proches d'ailleurs aussi, et ça donne la paix. Ça donne la paix. Et je crois que le secret de la prière est là. Ne pas chercher à jouer quelque chose qui n'est pas là, une réalité autre qui n'est pas la nôtre.
Nous poursuivons nos entretiens, Sœur Joseph, dans ce temps de carême pour évoquer la prière qui est au cœur de votre vie bénédictine. On va la mettre en lien de nouveau avec le thème que nous avons choisi cette année, extrait du livre du Deutéronome, ce très beau verset qui manifestement vous parle beaucoup, que vous aimez beaucoup. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie. » C'est Dieu qui s'adresse à son peuple à travers Moïse dans ce texte. Revenons à la prière source de vie. On en a un peu parlé déjà lors de notre premier entretien. En quoi est-elle source de vie, la prière ?
Comme vous l'avez très bien dit, Véronique, Dieu a donné son nom à son peuple. Il l'a appelé à la vie pour qu'il puisse l'invoquer, l'appeler, l'aimer et s'attacher à lui. C'était le but du chemin dans le désert. Il a fallu 40 ans pour que peu à peu cette loi de Dieu, son nom, s'inscrit dans leur cœur. Parce que invoquer le nom de Dieu, le prier, nous fait prendre conscience de sa présence en nos vies. Celui qui prie s'ouvre à la source de la vie qui est Dieu lui-même. Devant Dieu, je crois qu'il est bon de dire le matin les mots du psaume 62. « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube, mon âme a soif de toi. » Prier avec ces mots du psaume, c'est confesser à la fois donc Dieu comme le Dieu unique et comme la source de notre vie, source d'amour qui me fait vivre aujourd'hui. Donc je pense vraiment que la prière nous relie à cette source de la vie. Si nous voulons, en disant « choisis donc la vie », restons attachés au Seigneur, à sa loi, la prière nous donne cette ouverture, cette possibilité.
Alors parfois on utilise des images pour parler de la prière, comme un lieu de ressourcement. Assez fréquemment aussi, ceux qui la pratiquent disent que c'est une respiration et qu'arrêter de prier, pour eux, c'est comme arrêter de respirer. Et c'est donc, dans une certaine mesure, c'est mourir, c'est risquer de mourir. Vous, ce sont des mots, c'est un vocabulaire avec lequel vous êtes à l'aise ?
Si nous pensons comme une respiration et comme une possibilité de mourir, je pense que du fait que la prière nous relie à Dieu et à son souffle, mourir du moins spirituellement, une mort spirituelle, ça veut dire complètement coupé de Dieu, complètement coupé de la source de la vie et de son souffle, parce que la prière est une respiration qui nous connecte au souffle de Dieu, à la source qui nous dynamise, qui donne vitalité à tout notre être. C'est la vie même de Dieu qui vit en nous, si vous voulez, et son esprit nous vivifie, nous rend toujours plus humains, plus vivants. Et en cela, c'est sûr que si nous coupons, si la prière, nous la pensons vraiment comme une respiration et que nous nous coupons de ce souffle de vie, la mort spirituelle nous guette.
Parfois, d'ailleurs, il y a des traditions dans lesquelles la prière est calée sur la respiration. Inspiration, expiration, c'est des choses que vous pratiquez, vous ?
Alors, cette prière de Jésus, la prière du cœur, qui est très répandue en Orient, ce n'est pas notre pratique bénédictine, mais il se peut qu'une ou l'autre sœur, bien sûr, dans le secret de son cœur, la pratique.
Elle consiste en quoi ?
Normalement, c'est sur l'inspiration, Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, et puis l'expiration, prends pitié de moi, pécheur. Donc, quelque part, ce nom de Jésus, il y a le désir en nous que ce nom de Jésus s'inscrit en nous. Il devient en nous source d'eau jaillissante. C'est finalement être connecté, nos frères d'Orient, en priant cette prière de Jésus, non seulement leur cœur devient de plus en plus humble puisqu'ils se reconnaissent pécheurs, mais ce nom de Jésus qui est inscrit en eux est source de vie. Ils restent connectés à cette source.
Puis il y a quelque chose de très symbolique. La respiration, c'est le signe qu'on est vivant, justement, qu'on est en vie. Et la mettre au rythme de cette invocation, ça en dit long sur le lien qu'on peut faire entre la présence de Dieu et nos besoins physiologiques de respiration en inspirant, en expirant. C'est intéressant comme exercice.
Oui, c'est très intéressant. Et ce qui est très beau encore, je vous dirais, pour ceux qui arrivent à pratiquer cette prière, c'est qu'elle nous met dans une grande solidarité avec tous les hommes. Parce que finalement, la prière, nous parlons d'une respiration, tous les êtres humains ont besoin de respirer. Mais le plus beau de la prière comme source de vie, c'est qu'elle nous relie entre nous. Et les pères du désert et en Orient, ceux qui pratiquent la prière de Jésus, ils sont reliés entre eux. C'est comme un fleuve souterrain, une source de vie qui irrigue toute vie humaine, qui finalement nous relie comme des petits ruisseaux, nous relie entre nous. Et il y a des petites histoires où disent que les frères, les pères qui prient seuls dans leur cellule, parfois Ils disent, certains, que Jésus-Christ. L'autre, dans sa cellule, dans la montagne, il va dire « Fils du Dieu vivant ».
Et ça se complète.
Et ça se complète. Ils sont reliés entre eux. Et non seulement ils sont reliés entre eux, mais ils sont dans une communion très profonde avec le monde. Avec le monde, avec tout ce qui prie, ils sont remplis d'une compassion pour le monde qui fait que leur cœur, non seulement il est plein de cette vie, de cette source, puisqu'ils en boivent, ils s'abreuvent sans cesse, mais par leur prière, le monde est irrigué.
Vous avez parlé de communion, vous avez utilisé ce mot, il est central là.
Il est très fort. Et je pense aussi que dans la prière des psaumes, même si les psaumes expriment beaucoup des sentiments humains et que dans une même journée, nous ne vivons pas tout cela, mais quand nous les prions, notre cœur s'élargit peu à peu. Et je crois que c'est ça qui est très beau. Il s'élargit peu à peu et ils vont rassembler en eux tous les cris des autres, des nos frères et sœurs finalement.
On parle de la prière source de vie, Sœur Joseph, mais des tas de gens ne prient pas, en tout cas ne prient pas selon la tradition chrétienne ou même d'autres traditions, et pourtant ils vivent, ils sont en vie. Alors là, quand on parle de la prière source de vie, on parle de quel type de vie ?
C'est la vie même de Dieu. Saint Paul le dit, vous êtes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en vous. Tout homme est temple de Dieu. Tout homme est temple de l'Esprit, qui le sait, qui ne le sait pas. En tout homme, il y a une soif d'absolu. Il est tiré. Il y a une source qui l'appelle, si vous voulez, mais il ne s'en rend pas compte. Et il y a une prière qui se dit en lui. Il y a un Abba Père que l'Esprit dit en lui à tout instant. Il ne le sait pas, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne prie pas. Il y a une prière qui se dit en lui. Et un jour, peut-être qu'il découvrira ce que c'est vraiment cette présence de Dieu en lui. Il est créé à l'image de Dieu. Il est habité.
Mais quand on relit là ce texte, ce passage du livre du Deutéronome « Choisis la vie », c'est de cette vie-là qu'il s'agit. Dans le texte, c'est un V minuscule, mais on aurait presque envie de mettre un V majuscule. La vraie vie, mais qu'est-ce que ce serait la vraie vie ?
La vraie vie, le Seigneur est justement Dieu pour son peuple. Il lui a toujours montré la vraie vie. Et qu'est-ce que c'est la vie ? C'est de s'attacher à lui, vivre selon ses commandements. Et le Christ n'a fait rien d'autre nous montrer comment choisir la vie. Alors comment choisir la vie ? Il nous a dit « Demeurez dans mon amour » dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 15. Et qu'est-ce que c'est demeurer dans son amour ? Il nous a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Je crois que pour le Dieu de la première alliance, ce qu'il voulait pour son peuple, c'est cet amour et cette loi d'amour qu'il a déposé dans son cœur, de vivre entre eux en fraternité, de s'aimer les uns les autres et aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence. Et je pense que cet appel pressant, choisis la vie, choisis la vie. Le Christ, nous pouvons rappeler la rencontre avec la Samaritaine au bord du puits de Samarie, il lui a montré ce que c'était la vraie vie et que si en rencontrant le Christ et en se détournant de ses chemins qui ne sont pas des chemins de vie, dans son cœur, des fleuves pourront jaillir d'eau jaillissante. Alors elle a reconnu, mais tu es le Christ. Je pense que pour chacun d'entre nous, Il y a un appel, voilà, justement, une parole qui, un jour, choisit la vie, peut réveiller en nous quelque chose, de que la source, tout d'un coup, se met à frémir et il y a comme un débordement de cette source qui nous habite.
Sœur Joseph, je rappelle que vous êtes moniale bénédictine à l'abbaye de Pradines. Bonjour à vous et merci encore une fois de nous accueillir ici.
Bonjour Véronique.
La prière a beau être une rencontre amoureuse, comme vous nous l'avez dit au début de ces entretiens, est-ce qu'il y a des difficultés, disons, un peu classiques auxquelles vous êtes à un moment donné ou à un autre confrontée?
Oui, je pense que tout ne va pas tout seul, donc pas sans nous certainement. Quand la cloche sonne, le moine ou la moniale quitte son travail pour se rendre à l'office, pour rejoindre ses frères et sœurs pour la prière. Une première difficulté pour la prière commune, que je dirais, c'est vraiment de quitter son travail. Vous savez, nous avons une imprimerie, il y a des soucis, des choses à régler toujours à la dernière minute, et vraiment quitter le travail quand la cloche sonne, c'est pas si facile.
Il faut s'arracher à ce qu'on fait, finalement.
Voilà. Il faut quitter son travail, quitter ce que nous avons dans les mains, dit Saint Benoît, quand la cloche sonne. Donc, il y a un certain renoncement et un dépouillement de ne pas finir ce que nous avons commencé. Donc, je dirais, pour la première partie, déjà ça, il peut avoir une petite difficulté.
Et il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « Ah oui, mais moi, je viendrai plus tard à l'office parce que là, j'ai vraiment besoin de finir ce que j'ai commencé. »
En principe, il n'y a pas d'exception. L'office a la priorité, c'est ce rendez-vous que nous avons parlé, que le Seigneur nous donne pour chanter sa gloire et pour nous retrouver avec nos sœurs. Et je crois que cette petite partie de renoncement nous montre qu'est-ce que nous choisissons vraiment, pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour le Seigneur en premier. Et bien sûr, le premier risque est justement de se laisser prendre un peu par les soucis, de s'encombrer de tous ces soucis qui sont réels, vraiment, mais les laisser un peu de côté, aller prier avec ses sœurs et puis accepter que nous pouvons régler les petites questions plus tard. Et très souvent, nous faisons l'expérience que après la prière, des choses se sont mises un peu en place et que même les grands soucis, ceux qui semblaient très grands et difficiles, se sont un peu apaisés et que parfois les solutions apparaissent pendant la psalmodie et que ça nous fait sourire. Mais c'est pour dire que voilà, c'est aussi une réalité de notre vie. L'autre, c'est aussi quand nous arrivons, tout ce que nous avons vécu dans une matinée, ça nous habite vraiment d'entrer vraiment dans la prière. Il peut y avoir un moment où, surtout si nous arrivons juste, trop juste, pour avoir ces quelques minutes avant le début de l'office qui sont là pour préparer cette prière. Et nous avons besoin de ces quelques minutes avant l'office pour vraiment chanter tout ensemble. Parce que là, on respire tout ensemble et partir dans le chant tout ensemble, être vraiment là. Pas en train de préparer ce qui va être après la prière ou penser aux livraisons ou tout ce qu'il peut avoir avant et après. Non. Voilà, une des difficultés, être vraiment là, ni dans le passé, ni dans l'avenir.
Dans le monde, on appelle ça la méditation de pleine conscience.
Voilà,
c'est ça, hein.
Voilà, c'est
vivre l'instant présent.
Voilà, c'est tout à fait ça. Nous allons parler plutôt d'être présente à ce que nous faisons. Pour Saint Benoît, c'est très important parce que lui, il parle d'une prière que l'esprit soit en accord à notre voix. C'est-à-dire que être vraiment là, les paroles que nous chantons et que nous prononçons dans les lectures, dans les psaumes, vraiment que la voix et le cœur ne font qu'un. Ça, c'est un labeur. Parce que au moment de la prière, tout d'un coup, il y a des myriades de pensées qui apparaissent, qui nous envahissent, des soucis. Bien sûr, nous savons bien que le malin n'aime pas beaucoup la prière, hein, mais il faut savoir que voilà, c'est des petites tentations que nous pouvons avoir et que tout d'un coup, nous réalisons que c'est la fin du psaume et que nous étions complètement pris par des soucis.
Vous étiez ailleurs.
Voilà. Et ça, c'est une difficulté, ça, c'est un combat, c'est le combat de la prière. Et je pense que dans la prière personnelle, nous pouvons le trouver tout à fait, parce que dans la prière personnelle, qui veut dire être là pour Dieu, s'asseoir pour Dieu, c'est très gratuit finalement, c'est très simple. Très souvent, nous la compliquons beaucoup, beaucoup. Être là, s'asseoir avec Dieu.
Oui, mais voilà. On peut avoir le sentiment qu'on perd son temps.
Mais ce n'est pas une affaire des sentiments, justement. C'est une affaire d'être là, d'être présent et parfois accepter que rien ne se passe.
Alors justement, Sœur Joseph, est-ce qu'il vous arrive de vous ennuyer dans la prière, par exemple à l'office? Vous êtes porté par les sœurs, par les autres, vous êtes assez nombreuses en plus, donc vous pouvez vous laisser porter par leur chant, les psaumes et les prières, vous les connaissez par cœur. Est-ce qu'il peut y avoir à un moment des périodes de lassitude?
Alors je dirais, ça ne m'est pas arrivé de m'ennuyer, mais par contre la fatigue. Et je crois que surtout en été quand il fait très chaud, et que dans l'église il peut faire vraiment chaud, c'est difficile. À l'office du soir, c'est très difficile parfois, surtout quand il fait lourd aussi, qu'il y a une atmosphère lourde.
On peut avoir envie de s'endormir.
Mais on s'endort, on peut s'endormir vraiment, hein, pas que l'envie, hein, on peut s'endormir. Mais ce qui est le plus beau, si vous voulez, que ce n'est pas grave. Alors je vais vous lire un tout petit apophthegme qui dit que c'est quand même très beau.
Alors qu'est-ce que c'est qu'un apophthegme?
Alors vous savez, les pères du désert, ils avaient des petits disciples qui venaient leur demander « Abba, dis-moi une parole, comment je peux être sauvé ?» Donc c'est comme des petits trésors, des petites perles qui sont recueillies à beaucoup des livres qui sont plus ou moins longs. Mais alors, sur la fatigue à l'office, je peux vous lire un apophthegme. Quelques anciens viennent chez Abba Poemen. Ils lui demandent « Quand nous voyons les frères qui s'endorment à l'office, est-ce qu'il faut les secouer pour qu'ils restent réveillés pendant les vigiles ? Toi, qu'est-ce que tu en penses ? » Abba Poemen leur dit « Moi, quand je vois un frère s'endormir, je mets sa tête sur mes genoux et je le fais reposer. » Alors je trouve que c'est très beau.
Est-ce que ça peut aller jusque-là avec les sœurs à Pradine? Peut-être pas quand même.
Non, non. Depuis que je suis là, je n'ai jamais vu une sœur...
Dormir sur les genoux de sa sœur à côté parce qu'elle était épuisée?
Non, mais s'endormir, ça m'est déjà arrivé aussi. Donc je peux parler que pour moi. Hein. Ouais. Mais je crois que c'est aussi là la prière. Voilà, mais pendant ce... quelques instants, parfois, ben accepter que c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a tout d'un coup, quand il y a la doxologie que le sœur se lève, ben voilà, nous nous levons aussi et nous chantons la gloire de Dieu.
Est-ce que vous avez parfois le sentiment que vous auriez besoin de plus de liberté dans votre prière ? Parce qu'elle est très cadrée finalement par les offices, par la liturgie que propose l'Église ? Est-ce que vous avez un peu de liberté dans votre prière?
Je pense que la question que vous me posez me permet d'aborder la question de la liberté intérieure. Parce que la prière, si vous voulez, si nous la vivons déjà comme une contrainte, comme quelque chose qui nous est imposé, bien sûr, il y a un cadre. Mais il faut aussi comprendre que la prière nous élargit de plus en plus. Finalement, elle nous rend libres, parce que la relation à Dieu, que nous avons bien abordé cette relation, ce rendez-vous, cette rencontre, normalement, elle libère en nous quelque chose. Elle nous libère aussi de nous-mêmes et de nos petites prières que nous avons pu imaginer faire. Entrer dans la prière de l'Église peut sembler une contrainte assez forte, mais elle ne nous emprisonne pas. au-delà aussi, dans la journée, nous avons toute la liberté pour la prière personnelle. Nous avons parlé aussi d'un petit verset de psaume qui nous accompagne la journée, ou une parole forte, comme « Choisis la vie », par exemple, qui peut retentir en nous, qui peut être la notre prière de la journée. Cette liberté intérieure que nous pouvons acquérir de plus en plus pour nous-mêmes et que nous pouvons souhaiter pour les autres. Et je pense que ce qui nous rend heureux, c'est que nous retrouvons finalement ce cœur large, ce cœur dilaté. Saint Benoît aime beaucoup cette expression du cœur dilaté qui fait que nous sommes tout simplement contents et heureux de ce que nous faisons. La prière de l'Église qui peut sembler une contrainte, et la prière d'une communauté aussi, si nous l'accueillons pour le monde, pour les hommes, parce que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, le jour de notre profession, ce qui est très beau, nous avons reçu dans nos mains le psautier, avec ses paroles. Aujourd'hui, tu reçois le livre de l'Église. C'est très fort. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Bien sûr, nous pouvons avoir nos petites dévotions, et que nous avons l'habitude de dire depuis notre enfance.
Mais vous vous inscrivez dans une tradition qui est pratiquée par toute l'Église, de manière universelle.
Tout à fait, et je crois que c'est ça, plus que tout, qui nous aide à avoir ce cœur à cœur avec Dieu, parce qu'en ayant ce cœur à cœur avec Dieu, et on l'a avec le monde, si vous voulez, et nous pouvons compatir et vivre de loin et sentir vibrer le cœur du monde. Là, ça touche à quelque chose de très important. Le renoncement que Saint Benoît a dit, renonce à tes volontés propres au début de son prologue, qui que tu sois, la prière, c'est un chemin.
Sœur Joseph, vous avez 14 ans de vie religieuse. Est-ce qu'on peut considérer que vous êtes une professionnelle de la prière, vous et vos sœurs? Des spécialistes, quoi?
C'est une vraie question, et peut-être que beaucoup de nos auditeurs pensent que la prière, c'est pour les moines, pour les moniales. Non, c'est l'affaire de tout le monde. Alors, si vous me posez la question si je sais prier, je vais vous dire que je ne sais pas prier. Saint Paul nous dit clairement que nous ne savons pas prier comme il faut, mais que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Je pense que c'est une parole très forte.
Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne sait pas prier?
C'est-à-dire que nous avons besoin d'aide. Que l'Esprit, poursuit Saint Paul, l'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Plus loin, il nous dit quelque chose de très important. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Parce que je pense que la prière et l'amour vont ensemble. En regardant Jésus prier, les disciples comprennent très vite qu'ils ne savent pas prier. Alors ils s'approchent de lui et disent « Apprends-nous à prier ». C'est magnifique. Alors, ils ont reçu les belles paroles de la prière du Notre Père. Je pense que nous n'avons pas fini de creuser la profondeur de ces paroles. Là se trouve vraiment le secret, d'être toujours un peu comme des petits apprentis. Les moines, les moniales, ne sont pas des experts. Elles ne sont pas des pros de la prière. Nous acceptons tout simplement de ne pas savoir prier et de commencer chaque jour.
Mais est-ce que le fait que vous ayez plus de temps à y accorder, parce que votre vie est organisée en fonction de ça, n'est pas un élément qui facilite la pratique de la prière? Et on sait bien que plus on pratique et plus on est à l'aise.
Oui, bien sûr, nous avons les offices qui sont prévus, tout est donné, le temps de prière, bien sûr, qui sont prévus, aide à cette formation continue pour la prière. Finalement, Saint Benoît parle du monastère comme une école du service du Seigneur. Une école, c'est où on apprend toute notre vie. Pour cela, je pense que c'est important pour nos auditeurs qui peuvent prendre peur. Ils se disent, ben non, c'est pas pour nous, si. La prière est pour tous. Le plus grand danger, je dirais, c'est croire qu'on sait prier. Mais être là, accepter chaque jour qu'on se met devant cette présence du Seigneur et que chaque jour on puisse lui dire « Apprends-moi à prier ».
Est-ce que le temps qu'on y consacre est une garantie de bonne ou de mauvaise prière ?
Non, ce n'est pas une question de temps la prière, c'est une question de désir. Est-ce qu'on veut être vraiment là ? Pour qui on est là ? À qui on s'adresse ? Parfois, ça peut être très très court. Je prends un exemple. Le matin, tout le monde va au travail. Si nous avons 10 minutes, peut-être même 5 minutes, de remettre toute notre journée devant le Seigneur, mais cela suffit. Il n'y a pas besoin des heures.
Ça, c'est prier déjà ?
C'est déjà prier. Parce que le Seigneur voit le désir du cœur. Le désir de celui qui veut s'en remettre à Dieu, qui finalement regarde la lumière du jour et peut lui dire « Mais je te rends grâce pour la lumière, pour ce jour nouveau qui se lève que tu me donnes. Tout ne sera pas parfait, il y aura des difficultés, mais je sais que tu seras avec moi. » S'en remettre quelque part à lui.
Alors si quelqu'un décide de prendre le temps, par exemple 10 minutes, admettons, un quart d'heure, vous auriez un conseil à donner à ces personnes, une sorte de trame qui pourrait les aider dans le déroulement d'une prière avec un début, une fin et puis des choses qui sont un peu incontournables?
Déjà, je crois que la préparation, si on parle de 10 minutes, un quart d'heure, avant, si c'est possible, d'arriver à se poser un peu, de calmer un peu les agitations et se mettre en état, si vous voulez, en condition, je dirais. Peu à peu s'apaiser pour justement que ça soit un peu favorable à la prière. Mmh. Ça veut dire aussi laisser tous les soucis, le téléphone et tous les soucis de côté. Je dirais que cette petite préparation est importante. Après, arriver comme un pauvre, je crois que ça c'est une bonne condition aussi, humblement se mettre devant Dieu tel que nous sommes, laisser de côté tous nos images, tous nos masques, tout ce que nous ne sommes pas, être vrai là devant Dieu, c'est déjà un début magnifique de prière, demander sa grâce, se mettre devant lui tel que nous sommes aujourd'hui, demander sa grâce. Et puis, je pense que la Bible nous offre des paroles pour prier. Les paroles du psaume peuvent nous aider aussi, mais tout simplement aussi nos propres paroles pour lui déposer quelque chose devant le Seigneur, aussi nos soucis qui peuvent être là déjà. Mais un bon ingrédient, c'est aussi la foi. Ce que nous lui confions, nous lui déposons vraiment. Sans vouloir tout de suite lui demander que ça soit réglé très vite.
C'est ça, le risque c'est que on se tourne vers Dieu pour demander. Faites que. C'est presque de l'ordre du réflexe d'ailleurs.
Alors ça c'est très vrai. Mais pour préparer cette prière, j'ai une petite astuce. Si nous n'avons pas lu la Bible depuis longtemps, nous pouvons l'ouvrir à nouveau. Les récits bibliques nous offrent non seulement le langage de la prière, mais les grands priants, par exemple, comme Moïse qui intercède pour le peuple, Anne qui supplie pour avoir un enfant, Salomon qui demande la sagesse. Ils nous donnent non seulement les mots, les manières de prier, mais aussi la prière qui plaît à Dieu. Et comment Dieu exauce cette prière ? On ne clique pas, c'est pas une souris, on ne clique pas et puis...
Valider.
Non, si nous lui déposons vraiment, et dans la confiance finalement, c'est l'enfant qui est devant le Père, cette relation filiale qui doit peu à peu grandir entre nous et Dieu, cette simplicité de l'enfant fera que non seulement nous n'avons pas peur et nous ne mettons pas la pression à Dieu, mais que nous pouvons finalement nous abandonner peu à peu à lui. Et la réponse à nos prières, très souvent, elle n'est pas tout à fait ce que nous avons entendu. Mais ce qui est magnifique, c'est que Dieu nous comble au-delà de tout ce que nous espérons. Les situations vont se solutionner parfois d'une manière que nous n'avons pas pensé et toujours mieux que nous avons pensé. Si nous avons laissé un peu la place à Dieu, une prière qui est selon Dieu, et ce que nous montrent un peu les récits bibliques et tous les grands priants de la Bible, ils ont laissé la place à Dieu pour être Dieu, le Dieu de notre vie. Sinon, nous pouvons nous faire un Dieu à notre mesure, et alors nous retournons en Égypte, aux idoles.
Oui, c'est ça, c'est une forme d'idolâtrie.
Voilà, c'est une forme d'idolâtrie.
Pour terminer, parce que nous approchons de la fin de ces entretiens, Sœur Joseph, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pendant ce temps de carême pour revenir à la prière et donc choisir la vie?
Alors moi, je peux vous proposer quelques petits exercices tout simples. J'ai déjà parlé, copier un psaume, revenir à la prière, qu'elle s'inscrit un peu en nous. Après, je crois que la lecture de l'Eucharistie, la lecture que l'Église nous propose aussi, sont aussi des gestes pratiques, soit des réconciliations à faire avec nos frères et sœurs, inviter chez soi quelqu'un, ou proposer quelqu'un à quelqu'un qui... Il y a bien des gens qui ont besoin de notre soutien, des gestes concrets qui sont dans cette démarche, qui sont une prière aussi, qui sont un geste d'humanité, qui sont une prière forte finalement, qu'en ce temps de carême, qui nous marchons vers Pâques, avec eux tous, une parole vivante pour dire nous sommes avec vous. Chacun peut rencontrer des situations qui sont un appel fort à vivre, tourné vers Dieu, mais d'une manière qui est tournée vers nos frères et sœurs. Nous avons parlé d'être tourné vers Dieu, tourné vers la lumière.
Ça n'est pas pour tourner le dos à nos contemporains et à nos semblables.
Non, c'est vivre encore plus proche d'eux. Ce que nous avons vécu peut-être dans le secret du cœur, une prière intime ou dans une communauté, en priant les psaumes, nous pouvons le vivre avec ceux que nous en rencontrons. Et l'appel est fort aussi.
Et la prière est prolongée comme ça.
Voilà. C'est la liturgie du frère dont parle Saint Jean Chrysostome. C'est-à-dire que l'Église en sortie, dont parle le pape François, c'est cette prière continuelle qui fait que nous nous faisons proches du frère qui est dans le besoin. Alors, je crois que les situations et les occasions ne manquent pas. Et chaque fois... Le Christ nous dit, en Matthieu 25, « Chaque fois que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le petit verre d'eau fraîche, ou le petit geste ou un sourire, est une prière forte.
Un très grand merci, Sœur Joseph, de nous avoir accompagnés dans ces haltes spirituelles. Très bon carême à vous.
Merci, belle marche vers Pâques.
Merci beaucoup.